Bonjour à tous, il est 14h à la pendule de Radio Canu. Comme tous les dimanches de 14 à 15, c'est l'émission Musique, etc. qui commence. Une émission consacrée au rock et à la chanson. Et comme je dis souvent, de temps en temps, il y a un petit peu de métal et de rap. Aujourd'hui, une émission plutôt passée sous le signe de la chanson française avec un invité qui s'appelle Marc Agnier. Marc Agnier, bonjour.
Bonjour.
Donc, bienvenue dans les studios de Radio Canu et dans Musique, etc. Donc, peut-être avant, je vais envoyer un peu rapidement une chanson pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais peut-être vous présenter. Ça fait combien de temps que vous chantez
Bon, Guillaume, moi je chante en fait depuis que je suis tout petit parce que c'est ma mère qui m'a initié à la chanson en me faisant chanter dans une petite chorale et tout ça. Et puis, toute l'adolescence à chanter Brel, Brassens. Et puis, après un déclic, écrire soi-même ses textes et puis les chanter, c'est une autre phase. Alors là, c'est moins long dans le temps, c'est une dizaine d'années en arrière. Voilà.
Vous avez commencé par des reprises.
Disons, j'ai beaucoup chanté au coin du feu, quoi. Hein, c'est-à-dire, à l'adolescence, au lycée, je me baladais avec ma guitare et je chantais pas ce que j'écrivais, parce que j'écrivais très très peu et je n'osais pas le montrer à l'époque. Donc, effectivement, reprise.
Parce que là, en fait, toutes les chansons qu'on va entendre, donc vous avez aussi accepté de jouer en direct, donc vous allez nous chanter des chansons aussi, je vous en remercie, quelques chansons en direct. Mais toutes les chansons dont qu'on va entendre, vous êtes auteur, compositeur, interprète de ces chansons.
Exactement. Voilà, il y a. En fait, j'ai vécu mon adolescence un peu tardivement, donc sans doute, là, il y a une dizaine d'années, d'un seul coup, il a fallu que sortent tous les textes que j'avais accumulés sans doute en moi, mais que je n'avais pas écrits. Voilà. Et j'ai en même temps composé toutes les musiques qui allaient avec. Voilà, ça allait naturellement avec.
Et pour définir votre style musical, on peut parler de chansons françaises ?
Ah oui, je crois que ça convient tout à fait, c'est-à-dire le texte. Le texte qui est important, qui peut se relire, se réécouter, voire se comprendre. Et puis la musique qui est sur une base mélodique, hein, c'est sûr, avec un accompagnement assez standard pour la musique française, c'est-à-dire qui fait la part belle quand même aux mots.
Ouais, donc vous êtes un chanteur à la guitare, comme on dit.
Voilà, à la guitare ou au piano.
Au piano, ça vous fait jouer. Il y a aussi des morceaux, il y a du piano sur. Mais votre instrument, c'est comme la guitare.
Oui, je crois que la guitare, ça se trimballe plus facilement, donc j'en ai joué plus que du piano. Même si j'ai découvert le piano, comme tous les gens qui découvrent le piano, avec une certaine extase, parce que là, on peut tout faire. On peut faire la basse, on peut faire l'accompagnement, on peut ajouter des contre-chants. Donc c'est quand même un instrument assez sympathique pour ça, mais bon, un peu lourd à trimballer, voilà.
Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous propose d'écouter une première chanson, extrait de votre CD, qui s'appelle « Dernier jour de vacances ». Marc Agnier, sur Musique, etc., sur Radio Canu.
Dernier jour de vacances, t'es prête à tout. Regarde et pas de danse, au rendez-vous. Café noir sur nuit blanche, demain dimanche. Au sortir de la douche, cheveux mouillés, grand sourire sur ta bouche, juste maquillé. Café noir sur nuit blanche, demain dimanche. Nuit en cadence, j'apprends ton corps de joie sans confidence, comme un accord. Café noir sur nuit blanche, demain dimanche. Chez toi, un dernier verre sur canapé. Partons pour Citerre, habilité. Café noir sur nuit blanche, demain dimanche. Quand vers moi tu te penches, les yeux mi-clos, mes mains trouvent tes hanches. Café noir sur lui. un homme apprivoisé, fait pour croquer des pommes. Toujours l'été frissonne, je te le dois. Café noir sur nuit blanche, déjà dimanche.
Voilà Marc Agnier avec la chanson Dernier jour de vacances, extrait donc de votre maquette, on peut dire.
Ouais, voilà.
Voilà. Et peut-être évoquer cette chanson, des Derniers jours de vacances. Est-ce qu'elle a une histoire particulière? Comment a-t-elle vu le jour?
Ah bon, d'abord dire, c'est pas comme toutes les chansons, c'est pas autobiographique à chaque fois. Bien sûr, il y a des éléments de ma vie en propre que je fais ressurgir dans mes textes. Mais plutôt sous la forme de sentiments qu'on veut exprimer, en fait. Mais l'intérêt, c'est de les partager, alors de les mettre en forme pour que ça soit non pas son histoire à soi, mais l'histoire de tout le monde, de tout un chacun qui est passé par ces méandres. Alors là, sur Dernier jour de vacances, c'est une chanson qui est née plutôt d'abord par la musique. Donc, puisque quelquefois on compose une musique et puis les mots viennent ensuite, des fois c'est l'inverse, les mots coulent tout seuls et puis il faut trouver, le relief sonore qui va bien les épouser, en fait. Donc dans le cas de cette chanson, la musique est venue d'abord et puis il y a eu cette image du café qui s'est imposée, quoi, dernier café, demain dimanche, avec une idée assez simple, hein, qui est l'idée de la nuit blanche passée à découvrir l'amour rencontré un petit peu par hasard. Et puis c'est vrai que ces hasards-là, ben, on les trouve dans des conditions expérimentales qui sont régulièrement, pour beaucoup d'entre nous, à un certain âge, la grande adolescence, on va dire, ben, dans le contexte des vacances, qu'on a envie effectivement d'aller plus loin que sa vie du quotidien, qui est rythmée, mais qui est aussi réglée et puis bornée par un certain nombre de conventions, d'obligations. Et donc, ben, les vacances, on se lâche un peu, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on prend un peu des risques, et puis, quelquefois, ben, c'est là qu'on a une étincelle heureuse. Voilà, et je pense qu'après, dans la vie qui continue, comme le dit le dernier couplet, ben, cette étincelle heureuse, il faut y repenser pour qu'elle allume un peu les jours d'hiver, les jours de pluie, quand même un petit soleil, quoi. C'est comme ça la vie, quoi. C'est de savoir passer les moments un peu plus difficiles, un peu plus gris, en se disant que bon, il y a eu de la lumière avant, il y aura de la lumière derrière, et puis qu'il faut l'entretenir, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu. Depuis l'âge préhistorique, on sauve le feu, on le met dans une petite boîte et puis on le garde bien au chaud, quoi. Donc voilà l'idée de cette chanson, je pense.
D'accord. Et vos influences, Marc Agnier, quels sont les chanteurs que vous avez beaucoup écoutés, qui vous ont donné peut-être envie de faire de la musique à votre tour? Ou vos chanteurs, ou je sais pas, de la musique classique ou autre chose?
Ouais, alors c'est vrai que je suis pas mal influencé par la musique classique, classique, on va dire, la musique de guitare, quoi. Toute l'Amérique du Sud. Bon, moi, il y a pas mal de compositeurs que j'aime bien. Donc ça, c'est pour la musique, hein, parce que j'adore la guitare, en fait, sa sonorité, la possibilité polyphonique, mais juste le son, en fait, juste la rotation du son d'une guitare, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis pour les chansons, c'est vrai que j'étais un émule de Brassens à mort, quoi. C'est-à-dire, je savais tous ses textes, toutes ses chansons, chanter comme lui ou chanter surtout pas comme lui, mais bon, c'est vrai que j'ai pas mal macéré dans Brassens. Puis les autres grands B, c'est sûr. Après cette époque initiatique, en fait, du lycée, j'étais interne, donc d'adolescence, où j'avais toujours cette guitare. Après, il y a eu un creux. J'écoutais pas spécialement des musiciens, ou j'écoutais les textes. Et puis souvent j'étais déçu, alors ça m'intéressait pas, quoi. J'allais vers la chanson par le texte, quoi, ça c'est sûr. Et puis il y a quand même des gens qui écrivent des beaux textes, donc j'ai suivi, j'ai regardé un petit peu, voilà. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est de découvrir dans le paysage vivant, c'est-à-dire les gens qui sont en vie en même temps que moi sur la terre, quoi, les gens qui me touchent par leur texte et leur poésie. Là, j'étais jeudi dernier, j'étais à un concert de Nicolas Jules, là, Je vous en avais parlé, ouais. Guillaume, je crois, qui est un chanteur donc tout à fait contemporain. Et moi, je trouve qu'il a une poésie succulente. Donc voilà le genre de personne qui m'influence, parce que en le rencontrant, j'ai à la fois ça vous force l'humilité, parce que je trouve ça vraiment bien ce qu'il écrit. Et puis en même temps, ça vous enjoint à aller plus loin que juste cette idée que pourquoi il y aurait que les autres qui font des choses qui nous touchent. Non, il faut les faire, il faut les construire, voilà.
Et à part Nicolas Jules, sur votre platine en ce moment, il y a sur la platine de Marc Agnier, qu'est-ce qui tourne?
Ouais, bah j'ai,
ou sur vos MP3, je sais pas.
Ouais, non, c'est plutôt sur le lecteur CD, mais en fait j'écoute beaucoup la radio, donc je prends ce qui passe dans la radio. Et puis bon, il y a des choses, tout à l'heure juste avant l'émission, on évoquait Kent, donc moi j'aime bien Kent, j'aime bien ce qu'il a écrit pour Enzo, et voilà, des chansons comme ça qui me touchent. Elles sont pas toutes faciles, hein, parce que des fois c'est... Voilà, c'est juste sur cette limite intéressante entre le vécu personnel et puis le vécu collectif. Voilà, c'est vraiment là que ça m'intéresse. Après, sans citer de nom, bon, il y a pas mal de gens qui m'intéressent pas et ça me glisse dessus quand on répète la même phrase pendant 3 minutes, par exemple. Bon, bah, la musique peut m'intéresser, mais la chanson m'intéresse pas. Voilà.
J'ai le goût du chant dans le sang et sur les accords qu'ont du corps sous les mélodies rebondies. Je l'ai dans la peau, le tempo. Padidadadam, padadam, padadam. Padidadadam, padadam, padadam. Quand l'âge où j'avais peur du noir revient menacer mes espoirs, je pense à elle qui, sans compter, nous donnait tout quand elle chantait. Badoum dadoum dida, badoum dadoum dida, badoum dadoum dida, la didoum. J'ai le goût du chant dans le sang et sur les accords qu'ont du corps, sous les mélodies rebondies. Je l'ai dans la peau, le tempo. Elle n'a plus court qu'en ma mémoire. La voix qui me berçait le soir, mais même parti tôt pour longtemps, je l'écoutais, le ciel m'entend. Badoum dadoum dida, badoum dadoum dida, badoum dadoum dida, la didoum. J'ai le goût du chant dans le sang. Sur les accords qu'ont du corps, sous les mélodies rebondies, je l'ai dans la peau, le tempo. Padidadadam, padadam, padadam, padadadadam, padadam, padadam. Oui, quand je chante à pleine voix, je sens mon cœur brûler de joie. La confiance qu'elle avait en moi sur ce chemin qui est ma voix. Badoum dadoum dida, badoum dadoum dida, badoum dadoum dida, badidoum. J'ai le goût du chant dans le sang et sur les accords qu'ont du corps, sous les mélodies rebondies, je l'ai dans ma peau, le tempo. Badoum dadoum dadoum, badoum dadoum.
Voilà Marc Agnier avec la chanson Le goût du chant, extrait de son disque et dans musique etc. sur Radio Canu. Alors Marc a ma question pardon un petit peu habituelle, évoquer cette chanson, est-ce qu'elle a une histoire particulière, est-ce que vous peut-être l'évoquez?
Oui, bah là le goût du chant c'est particulier puisque ce qui est surprenant, c'est que il y a pas mal de gens qui m'ont fait des commentaires en me disant tiens, ça me fait penser à, je sais pas, Ella Fitzgerald, ou parce que on parle d'une personne qui est décédée visiblement, qui vous a impulsé l'envie de vivre la musique, on va dire. Et en fait, cette chanson, elle parle de ma mère. Qui effectivement, comme je l'ai dit en début d'émission, nous a donné l'accès à la musique, parce qu'elle était musicienne elle-même, pas professionnelle, mais simplement elle avait appris la musique et elle nous l'a transmis en tant que valeur importante dans la vie, hein. Elle m'avait dit une chose très sensible quand j'avais 17-18 ans, c'est-à-dire quelques années avant qu'elle meure, puisqu'elle est, elle est morte quand même précocement. Elle m'a dit surtout, je vais le dire cash, hein, surtout fais pas la même bêtise que moi, épouse une musicienne. Mon père n'était pas musicien du tout. Il l'est toujours pas, il est toujours en vie. Et donc j'ai écrit cette chanson qui dit ben voilà, quand je chante, ben je pense à toi, parce que je sais que tu m'as donné envie de chanter et que effectivement j'ai découvert avec la vie que c'était très important. Et ce qui est superbe en fait pour moi, c'est quand quelqu'un ne lit pas ça, mais lit dans la chanson. Qu'il y a quelqu'un d'autre, quoi, qui vient à l'image de son cerveau, qui se matérialise et qui, un jour, lui a fait découvrir l'importance qu'avait la musique dans sa vie, en fait. Et moi, je crois qu'on ne peut pas vivre sans musique. Ça m'est indispensable. Moi, ça m'est indispensable d'en faire. Je comprends que d'autres, ça leur soit indispensable d'en écouter, mais pas forcément d'en faire. J'ai pas croisé grand monde qui n'écoutait jamais de musique, qui était insensible à la musique. Donc je pense qu'il y a quelque chose de super, super profond en nous, qui est sur, effectivement, on peut dire des choses, enfoncer des portes ouvertes, le rythme cardiaque, tout ce que vous voulez. On a une vie rythmée, on a une vie harmonique, on est symétrique, on a pas mal de choses en nous. On a des cadencements dans notre vie. Effectivement, on se lève tous les jours, on se couche tous les soirs. Il y a des gens qui font l'inverse, mais bon, pour moi, je fais comme ça aussi. Et voilà, je pense que dans la musique, il y a le rythme, c'est sûr. Il y a la musicalité, c'est-à-dire les ambiances sonores, ça c'est sûr aussi. Et puis, il y a l'expression, c'est-à-dire dire ce qu'on est. Et moi, personnellement, effectivement, quand je chante, quelquefois, je me perds parce que je suis un petit peu ailleurs. Et je pense que c'est la nature du plaisir qui nous transporte ailleurs. Voilà. Donc, dans cette chanson, Le goût du chant, qui est une chanson importante pour moi, je rends hommage, en fait, à ma mère que j'ai perdue alors que j'avais 20 ans. Et puis en disant, un jour tu m'as dit fais de la musique, et ben maintenant j'essaye d'en faire vraiment, entre guillemets, et puis de la donner aux autres. Voilà, c'est ça qui compte en fait. Faire de la musique tout seul dans son coin, ça sert à rien. Donc ce qui compte, c'est d'aller rencontrer d'autres personnes, leur porter quelque chose qui leur appartient déjà en fait. Hein. C'est un révélateur. Hein. Une chanson, c'est un révélateur. Les gens s'attachent à une chanson parce qu'elle parle d'eux. Elle ne peut pas parler d'autre chose que d'eux. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est délicat, en fait. Hein. Tout ce qu'il faut trouver, c'est les mots pour le dire. Hein. C'est-à-dire, les grands couplets, que ce soit Brassens, Brel ou des gens plus contemporains, c'est qu'ils trouvent exactement, que ce soit M, que ce soit n'importe qui, ils trouvent les mots pour dire aux gens ce qu'ils ont envie de dire, en fait. Voilà.
Donc, chez Marc Anier, il y a une volonté d'être universel, on peut dire.
Enfin... Alors, non. Non, alors là, c'est une excellente question, Guillaume, mais je n'ai pas de volonté d'être universel, j'ai une volonté d'être sincère, ce qui est totalement différent. Si vous avez une volonté d'être universel, vous allez commencer à rentrer dans une histoire de marketing où on analyse comment on pourrait toucher le plus grand nombre de gens. Et là, on va en fait s'affadir, et puis on va dire « je t'aime pour toujours », et point, quoi. Et parce que ça, c'est universel, on a envie du grand amour. Mais ça n'est pas la sincérité. La sincérité, c'est vraiment de raconter quelque chose qui nous tient à cœur, le mettre en couleur, en lumière, et puis de dire, ben voilà, avec cet objet, je vais aller vers les gens à qui il appartient déjà, comme je disais précédemment. S'il leur appartient, ils vont le reconnaître, ils vont peut-être m'aider à continuer à aller dans cette voie-là, ils vont rester eux-mêmes, et puis voilà, ben, si je touche un millième, un dix millième, un cent millième, un millionième de la population, ça me suffit. il faut que j'arrive quand même à rentrer en contact avec eux. C'est ça qui est délicat, hein, c'est de rentrer en contact avec les gens qui, entre guillemets, vous ressemblent, parce que on est tous dans la même problématique. On erre tous nous-mêmes dans un espèce d'espace peuplé par d'autres, et puis on se sent tout seul, on se sent évidemment avec les autres dans le sens où on les croise, mais on se dit voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il m'est permis de faire pour être comme eux, pour être avec eux, pour pas être tout seul. C'est quand même la grande problématique de la vie, c'est ça. Franchement, je pense que c'est ça. Et donc, pour moi, la réponse, un peu le paradigme que je suis, c'est être sincère, produire ce qu'on a envie de produire, et puis se dire, voilà, ben, les gens que ça touche, ça les touche sincèrement, donc peut-être qu'ils vont m'accompagner sur ce chemin, moi je leur apporte quelque chose, ils vont m'apporter quelque chose. Les gens que ça touche pas, ben, soit ils sont dans une... ça les touchera jamais, parce qu'on est, on est simplement pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde, soit ça les touchera plus tard, soit ça aurait pu les toucher plus tôt, hein. Ça, je sais pas si vous, ça vous fait cet effet, vous qui croisez beaucoup de chanteurs, mais voilà, il y a des gens, on se dit, tiens, j'aurais pu aimer ça, ou tiens, je pourrais peut-être aimer ça plus tard, mais pour l'instant, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Donc voilà, pas d'exigence comme ça, ou pas d'ambition universelle, juste faire quelque chose de sincère, et se dire que, ben voilà, si on est exigeant avec soi-même au point qu'on produise quelque chose qu'on aime, qu'on veut défendre, qu'on veut porter vers les autres, waouh, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà suffisamment ambitieux.
Je vous propose de partager avec vous une chanson, peut-être en direct, si vous êtes d'accord.
Bon, bah ok, on va essayer, ouais.
Peut-être enlever le casque, je sais pas, ou comme vous voulez, en fait.
Non, j'enlève le casque, quoi, parce que sinon je vais pas m'entendre.
Et je remercie Marc Cagnier de chanter en direct, parce que, comme je le dis à chaque fois, les conditions sur Radio Canu sont pas réunies, c'est un peu route. Donc voilà, donc du coup, vous allez nous chanter quoi, Marc ?
Eh ben alors là, je vous fais le topo pour les auditeurs. Donc je suis sur une chaise en bois, assez dure, genre chaise écolière, le pied un petit peu ballant sur une table. Voilà, j'ai ma guitare, un micro, donc un seul micro, prise de son voix, et vous allez entendre un peu la guitare derrière. Et je vais chanter donc Papillon de soirée. Alors Papillon de soirée, c'est une chanson que j'ai écrite dans les années 90, donc elle est assez ancienne pour moi. Je l'avais mis en musique, et puis elle a pris sa forme au fur et à mesure des années. C'est une chanson un peu chrysalide, quoi, qui est sortie peu à peu. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous rappellera quelque chose. Voilà.
Marc Cagnier en direct.
Maison éclairée, feu de joie dans le pré. Maison éclairée, feu de joie dans le pré. Garçon, fille et musique, air du temps euphorique. Une fille entre toutes me plaît, sans aucun doute. Je la dévore des yeux, feu follé, ambitieux. Ah, qu'elle s'est vouée, mon âme m'a douée. Ah, j'ai un peu du mal avec le direct, hein, donc je suis désolé, mais c'est quand même difficile, quoi. Donc je vais recommencer, voilà.
D'accord.
Maison éclairée, feu de joie dans le pré. Garçon, fille et musique, air du temps euphorique. Une fille entre toutes me plaît, sans aucun doute. Je la dévore des yeux, feu follé, amoureux. Ah, qu'elle s'est vouée, mon cœur à m'adouer. Ah, je suis désolé, là, vraiment... Guillaume, on va reprendre un petit peu notre conversation, parce que j'arrive pas à la chanter, en fait. Je suis trop rempli d'émotions. Et
je vous propose d'envoyer peut-être une chanson. J'avais calé le parc. Envoyez le parc.
Allons-y sur le parc. Ouais.
Et puis on essaiera de reprendre après ça.
Ouais.
Pour les mots qui en moi voulaient porter des ailes, être mélodieux, détendu et serein. Rien n'avait de l'allure au bal des hirondelles. La ville avait convié les voitures et les trains. La ville avait convié les voitures et les trains. Nous étions sur un banc dans un tout petit parc, cerné de toutes parts d'immeubles en bric-à-brac. Comme deux oiseaux perdus, juste tombés du nid, découvrant et perdu le jour après la nuit. Découvrant et perdu le jour après la nuit. Quand l'amour dit encore, qu'importe le décor, la fatigue ou la faim, tant qu'on se tient la main. Le nez rougi de froid et la voix mécanique, je t'ai dit ces mots doux, clairement romantiques, que murmurent les hommes depuis l'aube des temps aux femmes l'âge venu de faire des enfants. Aux femmes l'âge venu de faire des enfants. Quand l'amour dit encore, qu'importe le décor, fatigue ou la faim, puisqu'on se tient la main. Entre midi et deux, quelques mots échangés ont engagé nos voeux et nos vies ont changé. Oh oui, je me souviens de ce petit jardin où tout fut chamboulé du jour au lendemain. Où tout fut chamboulé du jour au lendemain. Notre amour dure encore, même dans nos désaccords, nos joies, nos chagrins. Nous nous tenons la main.
Voilà, c'était Marc Agnier avec la chanson Le Parc. Le Parc, ma question habituelle, rituelle, Marc, cette chanson, Le Parc, peut-être l'évoquer
Ah ben volontiers. Donc là c'est pas du tout ce que je disais tout à l'heure, parce que là c'est du 100% autobiographique, quoi, puisque j'ai rencontré mon épouse un petit peu de cette manière-là. Elle-même était engagée dans une histoire, moi je sortais d'une histoire, et c'était un petit peu complexe de se rencontrer. Et puis un jour je lui ai dit ben faut qu'on se parle, hein. Faut qu'on se parle d'une manière importante, quoi. Et on est allé dans un petit parc qui existe à Lyon, hein. Et puis on s'est parlé sur un banc, et c'est ce que je dis dans un couplet. Et ben c'est vrai que c'est là où on voit, on peut dire ce qu'on veut, quelques mots, ben ça vous fait basculer, ça vous fait choisir un chemin ou un autre. Et donc ben voilà, c'était il y a quand même pas mal d'années en arrière maintenant. Il y a des enfants qui sont venus, qui sont quand même une concrétisation superbe que d'autres connaissent, hein, mais qu'on apprécie. Et puis la vie s'est engagée de cette manière-là, avec des mots classiques, hein, de dire ben voilà, est-ce que tu veux vivre avec moi, hein, parce que ça dit ça. Donc ça, c'est une partie de lecture. Une autre partie de lecture, c'est qu'effectivement il y a une chanson qui sont les bancs publics de Brassens, et donc ça m'a donné tout de suite le titre, même si explicitement la chanson est pas portée par la même idée. hein, puisque dans les bancs publics de Brassens, c'est des gens qui... Il y a un peu d'ironie, on s'installe ensemble, on va peindre les murs en bleu et on va croire que la vie va être douce juste par ce geste-là, hein, qui est une phase de l'amour qu'on a tous vécu quand on a un certain âge. C'est la première fois qu'on quitte le nid, hein, qu'on déménage de chez ses parents, on s'installe avec quelqu'un et là, c'est formidable. On fait sa vie, on croit faire sa vie tout seul avec ses décisions. On repeint les murs et puis bon, un jour, on se rend compte que soit c'est, ça suffit pas, soit c'est pas ça, et quelquefois même, et ben, il faut chercher autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que le vivre ensemble dans un même mur qui crée ou qui laisse survivre l'amour à tous les dangers qui les menacent. Donc voilà, le parc, c'est à la fois une vraie chanson autobiographique et puis qui parle juste du déclic, c'est-à-dire du jour où ça bifurque sur quelques mots. Et par ce fait-là, j'ai eu des commentaires autour de moi. Ah, mais j'adore, c'est exactement ça. Et puis il y a des phrases aussi, des couplets qui marquent les auditeurs ou les écouteurs, on va dire, qui écoutent les passants. Ça c'est quelque chose, je sais, qui reste un petit peu en tête de certaines personnes. Parce que ça explique exactement ce qu'on vit à cet instant-là, c'est-à-dire qu'on est dans une situation énorme pour nous, on est une énorme sphère de concentration, parce que notre vie réellement en dépend des quelques minutes qui se passent, elle peut tout à fait changer, puis autour de nous, ben, la vie continue, hein, les gens... Ils ont, si on les regarde d'un peu loin, de derrière cette petite surface de ces espoirs, qu'est-ce qu'on a l'impression d'une course de personnes qui courent les uns derrière les autres, les uns devant les autres, petite mallette, petit gilet sur le bras, où est-ce qu'ils vont, on s'en fiche en fait, mais voilà.
Et Marc, avant, votre formation musicale, vous avez un peu parlé de votre mère, mais vous avez pris la musique comment vous lisez le solfège, donc vous avez pris des cours
Alors oui, je lis le solfège, je compose, j'écris toute ma musique, donc, mais je n'ai pas pris de cours, j'ai appris tout seul, avec un petit une initiation en fait. Ma mère nous a appris, comme je le disais, le solfège et la flûte à bec. Voilà, c'était dans les années où on apprenait la flûte à bec au collège. Et moi, j'ai eu double dose parce que j'avais aussi flûte à bec à la maison, quoi. Et ça m'emmerdait, quoi. Ça me faisait chier, je trouvais ça nul. Et puis à 15 ans, en fait, on est parti en vacances en caravane, voilà. Je me rappelle très très bien, c'était à Hendaye, donc dans le sud-ouest. Et puis vraiment, je trouvais qu'il n'y avait rien à faire, mais il y avait la flûte. Et tout d'un coup, révélation, je me suis mis à jouer de la flûte à bec et à m'intéresser à la musique que ça produisait. J'emmerdais tout le camping avec ça, en fait, puisque des gens se sont plaints à mes parents. Donc je suis allé sur la plage, voilà, c'est très romantique. Puis j'ai appris la flûte, mais là, en quelques semaines, je suis passé du flutio du collège à une bonne maîtrise de la flûte. Et puis ensuite, on a eu un piano à la maison, d'une manière extraordinaire. Ma mère a touché un tout petit pécule de je ne sais pas quel... ancêtre ou disons voilà, et elle a décidé de s'acheter un piano parce qu'elle avait joué du piano dans son enfance. Et là, le piano arrivant dans la maison, je n'avais plus Dieu que pour le piano. Et en quelques semaines, j'ai appris tout, la clé de fa, tout ça me passionnait, hein. J'étais très bon élève mathématicien à l'école, et du coup ça m'a pas posé trop de problèmes théoriques. Je me suis dit, il faut vraiment beaucoup de pratique, et là j'ai commencé à beaucoup jouer du piano et puis de la guitare, parce que le piano c'est pas transportable, voilà. Mais j'ai quand même eu quelqu'un qui m'a aidé sur la guitare, un type qui était prof au collège et qui m'a initié à la chanson, à l'accompagnement, voilà. Il m'a même acheté une guitare folk parce qu'il trouvait que je chantais bien et que je jouais bien de la guitare, donc c'était quand même super généreux, quoi. Et donc voilà, il s'appelait Philippe, et puis il m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour faire de la musique une grande partie de mes heures à l'époque. Voilà. Mais sinon, je suis autodidacte. Mais autodidacte, ça veut pas dire qu'on n'a pas appris, hein. Autodidacte, ça veut dire qu'on apprend tout seul. Simplement, le cheminement est plus difficile, plus délicat, parce qu'on est moins accompagné, je crois. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, on est moins ou meilleur, moins bon ou meilleur que quelqu'un qui a suivi un enseignement gradué, je dirais, parce que la différence, c'est qu'on va, immédiatement à l'essentiel. Avant de venir, là, j'ai pris un petit café pour pas être trop en avance. Vous m'aviez dit, Guillaume, arrivez pas en avance, sinon on fait l'émission. Puis quand on va commencer l'émission, on va mettre la radio on et hop, on sera déjà tout dit. Donc j'ai pris un petit café et puis c'était assez miraculeux. J'ai entendu Asturias. Donc, qui a un air de guitare bien connu pour tous les gens qui pratiquent la guitare. Et ça passait donc sur le petit café. Donc déjà, c'était rare, hein, de la guitare classique. Et là, ça m'a immédiatement reprojeté à une époque assez lointaine. J'ai 15-16 ans, je suis à Paris, j'ai ma copine avec moi. On se balade du côté de Beaubourg. Et à l'époque, il y avait beaucoup de chanteurs de rue. Il n'y avait pas de MP3, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour écouter de la musique en permanence. Et donc, il y avait un gars sur le coin de la rue qui jouait ça. Et là, moi, je me suis arrêté, j'ai regardé. Ma copine voulait continuer à ce qu'on se prenait. J'ai dit non, attends, on va écouter, c'est super. Alors, elle s'arrête, elle écoute avec moi. Et puis, au bout d'un moment, elle dit bon, on y va. Je dis non, j'écoute, j'ai vraiment envie de jouer ça. Et là, elle pouffe, elle me dit t'y arriveras jamais, quoi. Et là, c'est des choses qui sont déterminantes parce que j'ai dit, bah si, je vais y arriver, quoi. Et donc, j'ai passé quelques temps à travailler juste pour obtenir ce résultat, arriver à faire ça. Bon, j'avais déjà pu ma copine à l'époque, mais donc, puisqu'on n'était visiblement pas sur la même harmonique. Et puis, j'ai réussi à jouer ça. Donc, j'ai joué beaucoup de guitare classique, en fait. Voilà.
Je vous propose d'écouter une chanteuse pour qui vous avez écrit des textes, en fait, et des chansons même, c'est Caroline Persson. Vous avez écrit, donc, c'est sur son album qui s'appelle Que se passe-t-il. Vous avez écrit 3 chansons. Je vous propose d'en envoyer une, puis peut-être après évoquer la chanson et ensuite évoquer votre rencontre avec Caroline Persson.
Impeccable.
Pour se distraire un peu du gris de la télé, aujourd'hui en famille, au cirque on est allé voir valser les lumières au gré des trapézistes et jongler sans faillir le clown trompettiste. Saltimbanque ou gitan, c'est du pareil au même. Que sur scène on t'acclame, ça veut pas dire qu'on t'aime. D'ailleurs dans la vraie vie, on change de trottoir quand on voit qu'il mendie pour ne pas faire d'histoire. En route on a croisé un orchestre tzigane dont les vivants violons chantaient à fendre l'âme. Nous nous sommes arrêtés pour boire un doigt de larmes apprivoisé par l'air d'où ruisselait leur gamme. Parce que voyez-vous, ce serait bien trop long d'expliquer aux enfants ce que tous ces gens sont, mais ceux qui ne sont pas, mais alors pas du tout. C'est facile à décrire, ils ne sont pas comme nous. De bonne famille, aussi vrai que c'est triste, feignent l'indifférence pour les gens différents. les voir, on dirait qu'ils trouvent indécent que l'on puisse t'accorder le droit d'être un artiste. Je ne suis pas manouche, mais je connais la douche de mépris qui se cache sous les demi-mots lâches que reçoivent pour rien les gens en déshérence de ceux qui les tolèrent, loin d'eux de préférence.
Voilà Caroline Persson avec la chanson Les Saltimbanques. Alors donc c'est une chanson que vous avez écrite, Marc.
Tout à fait, ouais.
Ouais, donc je sais pas, et Caroline Persson, je sais pas.
Ben alors cette chanson, donc je vais rebondir un petit peu dessus. Donc j'ai fait les textes, j'ai fait la musique aussi, l'harmonisation et puis les différentes voix. Par contre ensuite ça a été arrangé encore un petit peu par Bruno Simon, donc à la guitare avec son complice batteur effectivement, hein, tout de suite, moi je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux que juste la guitare. C'est une chanson qui parle, bon, qui évoque deux trois choses qui me tiennent à cœur. Bon, c'est vrai qu'on est un peu tout le temps devant les écrans, c'est un peu la télé, c'est pas si vivant que ça, quoi. Il faut aller à la rencontre de la vie, et puis ça dit une chose toute simple. C'est vrai qu'on aime les artistes quand ils sont en scène, et on a l'impression qu'ils sont en scène 5 minutes et qu'il faudrait, entre guillemets, j'y vais direct, les payer pour les 5 minutes, quoi. Mais les mecs, avant de faire 5 minutes de spectacle, ils ont des heures de vol derrière, et il faut absolument aider la création vivante par rapport à ça. C'est-à-dire la création, je parle bien de ce cheptel de personnes qui sont des artistes créateurs. Voilà. Caroline, je l'ai rencontrée d'une manière tout à fait surprenante. Elle posait en fait en tant que modèle vivant, hein, puisque moi je suis peintre, hein, donc elle posait dans un atelier et moi je l'ai peinte et dessinée, notamment à l'encre de Chine, et c'est elle qui est venue vers moi parce qu'elle elle aimait beaucoup ce que je faisais. Bon, ok, donc comme ça se passe en général, je dis très bien, je donne un croquis ou deux, et puis elle est revenue vers moi parce qu'elle faisait une programmation de poésie et de chansons, hein, avec Florian Didois, qui était son complice au piano, là, un spectacle, et elle voulait absolument que mes graphismes lui servent d'affiche. Donc, ok, hein, moi je lui ai dit pas de problème. Et ça, c'était avant que je commence à composer des chansons et de la musique, hein, pour chansons. Donc, et elle a fait son affiche avec mes graphismes, et puis c'était très réussi son spectacle. Moi, je l'avais trouvé très 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 bien. Et donc, on est resté en contact. Et puis, elle chantait pas mal Barbara en fait à l'époque. Et puis un jour, on a continué à se voir, à se croiser. Elle me dit, tiens, j'essaie d'écrire des chansons parce que, bon, je ne vais pas chanter Barbara toute ma vie et tout ça. Et puis moi, je lui ai dit, bah, c'est super, c'est super. Et puis à ce moment-là, justement, moi-même, j'avais commencé à écrire des textes et des musiques. Alors je lui ai dit, bah, viens voir aussi ce que je fais. Si tu veux, je peux te faire des textes, je peux te faire des musiques. Et puis elle est venue, on a choisi des textes, on a choisi des musiques, et puis elle en a fait ce CD, et moi j'étais très heureux de à la fois l'accompagner dans cette volonté qu'elle avait, donc tout d'un coup, hein, comme je racontais tout à l'heure, de passer du « j'interprète » à « je crée ». C'est vraiment pas la même dimension, c'est pas le même engagement, c'est pas le même torturement. Je sais pas si ça se dit, c'est peut-être torture, un néologisme, torture. C'est pas la même torture. Et puis elle a fait ça, donc elle a mis dans son premier CD quelques-unes de mes compositions.
Oui, il y a 3 chansons, il y a donc les Saltimbanques qu'on vient d'entendre, voilà. Il y a une autre qui s'appelle En vérité et une qui s'appelle Lila.
Voilà, ce sont En vérité c'est une chanson qui parle un petit peu des problèmes de chômage, on va dire, et puis les Lilas, ça c'est plus romantique puisque ça parle d'une rencontre d'un ancien amour, hein. Ça aussi c'est quelque chose qu'on est à même de ressentir, sinon de vivre tous, voilà.
Vous l'avez évoqué un petit peu, mais comment se passe, on revient à vous, Marc Agnier, comment se passe la composition, l'écriture, est-ce qu'il y a une, vous pourriez définir le processus, est-ce que
vous arrivez
à l'analyser, peut-être?
Alors, par rapport à Caroline, Caroline m'a demandé, il y a une quatrième chanson dont j'ai fait le texte, qui s'appelle « Mon nom est personne ».
Ah d'accord.
Là, elle m'a dit ouais, j'aimerais bien avoir une chanson Mon nom est personne et je lui ai dit bah oui, là je peux te faire un texte un petit peu cabaret. Donc par exemple, ça c'est une chanson de commande et bon, moi j'écris pas mal de poésie par ailleurs et effectivement, c'est une chanson de commande puisqu'il y a à la fois la thématique et puis il y a la texture si vous voulez, puisque là c'est une chanson cabaret, donc ça doit être drôle quoi. Il faut qu'il y ait des moments d'humour Jacques Couplet, hein, parce que sinon ça marche pas. Donc dans ce cas-là, l'écriture, elle est donnée par quelques aiguillons. Et puis j'ai imaginé ce décrochage de téléphone. Voilà, bon, on la passera peut-être pas celle-ci, mais intéressez-vous à elle, il y a pas de problème. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est une écriture particulière sur commande, où là on essaye de servir le désir, qui est pas une idée, mais qui est un désir de son partenaire en fait. Et puis sinon, moi en général j'ai des petits cahiers un peu partout dans la maison, donc ça peut se produire à 3h du matin, j'ai trois rimes qui trottent dans ma tête et il faut absolument que je les écrive ou j'ai une idée. Donc j'ai cette dispersion. Musicalement c'est pareil, je peux très bien noter des choses d'une manière... Je suis très créatif, mais j'oublie aussitôt, donc il faut que je note. Et puis ensuite, à partir de cette prise de note, quelquefois, ça revient et je travaille autour. Donc j'essaye d'assembler les morceaux, en fait, et de trouver quelque chose qui fonctionne, en fait. Mais sur ma création à moi, c'est vraiment, si vous voulez, c'est une succession d'étincelles, en fait. Ça marche comme ça. J'ai essayé, par rapport à la création, de me dire bon ben voilà, je vais prendre cette thématique, je vais travailler autour de cette thématique. Ça marche pas trop en fait, ça marche pas comme ça pour moi. Par contre, effectivement, je peux entendre quelque chose à la radio, j'écoute beaucoup la radio ou autre qui m'interpelle, et puis ça va faire son chemin lentement. Je vais commencer à écrire quelques lignes, un couplet, trouver quelque chose qui fonctionne. Et puis voilà, ça part comme ça. Et après, ça peut mettre, comme je pense la majorité des auteurs, hein, ça met 3 jours ou 3 ans. Hein, on peut pas dire autre chose. Alors une fois que c'est fait, par contre, une fois qu'il y a une première mouture qui est faite, là, moi, je range. Et je ressors plusieurs mois. Je procède de la même façon pour ma peinture. Je range. Parce que quand on crée, on est super satisfait. Hein. On se dit, ouais, tout est beau, c'est merveilleux, je suis vraiment grand, c'est génial. En trois fois rien, j'ai fait un truc superbe. Parce qu'on est dans l'exaltation de la création. Il faut, pour moi, il faut que je laisse décanter. Et que quand je le reprends, donc à un certain timing plus tard, ça peut être quelques mois, quelques semaines, il faut que, faut que je vérifie qu'il y ait tout de suite un éclat, c'est-à-dire je relis ça comme un espèce de truc exogène, quoi, et puis, c'est-à-dire qu'il ne m'appartient pas, et puis là, voilà, là, il y a deux cas. Soit je me dis, putain, je serais fier d'avoir écrit ça, soit je me dis, putain, c'est vraiment nul, et là, bah, là, il faut ranger, quoi. Et donc, je vous explique tout le processus, wow. Hein. Et puis ensuite, à partir de là, je me mets à travailler. Et pour ce qui concerne les chansons, je finis par écrire 25 couplets, quoi. Mmh. Alors, 25 couplets, c'est intenable. C'est même pas l'histoire du format de 3 minutes ou de 5 minutes. C'est intenable, ingérable. Et donc là, j'élague pour essayer de garder des choses, de les concentrer. Et à mon avis, c'est là où le travail d'écriture est le plus exigeant, le plus complexe et le plus intéressant aussi, parce qu'il faut arriver à garder ce qu'il faut. J'entendais un gars là, l'autre jour à la radio qui parlait sur la même thématique et il disait bon, au début on a écrit des chansons puis il fallait qu'on cherchait des rimes, mais quand on trouvait la rime ça voulait plus dire ce qu'on voulait dire, donc on a abandonné la rime et maintenant on est en texte libre et ça va mieux parce que comme ça dès qu'on dit quelque chose on est content. Bon, ça se défend, hein, c'est un point de vue. Mais il y a une certaine beauté à assouplir...
Faut que ça sonne aussi. Hein.
Voilà, à assouplir par le verbe, par le jeu des mots, par l'exactitude, sa pensée, à l'affûter, à l'aiguiser, au point qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que quand on l'entend, ça va, et quand on y réfléchit, c'est sublime. Voilà, moi, c'est ça que je recherche.
du pays de papier commence. Quant au bon ouvrier, on dit si tu veux travailler, repense complètement ton métier. Prends ton cas, ta table et tes cahiers, retourne en classe, vas-y, allez. Apprends surtout à calculer, seuls ceux qui comptent sont bien payés. Seuls ceux qui comptent sont bien payés. Seuls ceux qui comptent sont bien payés. L'argent se fait en écrivant des choses dans des ordinateurs. Sans ouvriers ni paysans, la rose n'a plus d'admirateurs. On trime pour des rapports photocopiés, sans bien savoir à quoi ça rime, ce grand navire fait de papier. Ce grand navire fait de papier. Ce grand navire fait de papier. L'origami des lois se plie aux doigts et à l'œil des puissants. Sous la panoplie du droit, ils sont fiers et cassants. Sûrs de n'avoir de compte en fait, car rendra leur dossier l'argent. Leur vie est un conte de fête, fait d'héritage et d'entre-gens. Me l'envole d'un coup d'usine vers d'autres sols. Aux employés qui crient au vol au loup, très vite on les isole. On leur dit bien sûr que quitter la boîte où t'as tant travaillé, c'est dur mais cinq heures c'est dicté par les grands sorciers du papier. Pays de papier non plus l'impression d'exister. Ils sont à peine une fiche de péon, tu en eux la dignité. Ils voient sous leurs doigts leur métier couler d'une vive blessure. Les bras tombent, les têtes se fissurent. Copier-coller pas de quartier. Copier-coller pas de quartier. Copier-coller pas de quartier. Sans rien semer, on mange de tout, c'est bien, surtout pour la santé. Sans fabriquer, on voit partout des biens prêts à être achetés. Et tous les jours ouvrés dans les vitrines achalandées. Ordre et donné de gaspiller, protocole du papier glacé. Protocole du papier glacé. Protocole du papier glacé.
Voilà, Marc Cagnier sur Musique, etc., sur Radio Canu, avec la chanson Le Pays de Papier. Alors, en fait, je crois que c'est une chanson qui est importante dans votre répertoire, celle-ci. Peut-être en dire quelques mots, Marc.
Bah, tout à fait. Bon, d'abord, je veux dire que c'est une chanson. Donc, il y a un dédicataire qui s'appelle Jean-Marc F., qui s'appelait Jean-Marc F., puisqu'il est décédé. C'est un gars avec qui j'ai travaillé, que j'ai connu en 90 et qui s'est suicidé en peu après qu'on soit licencié. On a été licencié ensemble au tournant de 2008-2009. Hein, donc, on n'est pas les seuls. Hein, des centaines de milliers de personnes étaient dans ce cas-là. Je ne veux pas entrer dans d'autres détails, mais je veux dire que, voilà, après mon licenciement, j'ai regardé un petit peu des choses d'un air différent. Puis c'est un petit peu, pour moi, c'est un peu, l'écriture me permet aussi de dire des choses et de les sortir de moi, hein, puisqu'il faut garder le cœur léger pour aller dans la vie. Et donc j'ai écrit cette chanson, et puis j'arrivais pas à la façonner complètement, et quand Jean-Marc a décidé de mourir, hein, de se suicider, je suis allé le voir, je suis allé voir son cadavre, il faut lui dire les choses clairement, quoi, me recueillir. Et puis en même temps, j'ai senti une exigence extrêmement forte de finir cette chanson et d'essayer de la faire vivre, c'est-à-dire de la chanter tout simplement. Donc je l'ai finie, mais vraiment très rapidement, ça a cristallisé, tout s'est mis en place. La musique, le texte, j'ai supprimé les choses qui étaient inutiles. Et voilà, c'est une chanson qui dépeint la société. Alors, ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, j'ai eu des commentaires d'autres personnes qui ont vécu les mêmes... Les mêmes turpitudes, en fait, que moi, hein, et qui ont changé leur regard un peu sur la société. Et voilà, c'est une chanson qui est importante pour ça, pour moi. Voilà. Bien sûr, on pourrait en parler des heures, parce que chaque couplet, on peut faire une émission sur chaque couplet, mais là, je pense qu'il faut juste le dire.
Peut-être, là, il reste quelques minutes, peut-être, parce qu'en fait, c'est vrai que vous êtes chanteur, mais peut-être évoquer une autre facette de votre activité artistique, où vous êtes peintre également.
Alors,
peut-être en dire quelques mots.
Donc, je suis peintre, là. Ce que j'ai fait ce matin avant de venir là, à Radio Canu, c'est que j'étais au marché de la création de Lyon. On a un très beau marché, donc sur les quais de Saône, côté Vieux Lyon, tous les dimanches matin. C'est un marché, moi, j'y participe depuis 2003, parce que depuis 2003, je suis peintre professionnel. Et pour moi, c'est une occasion de rencontre avec le public, rencontre avec les clients, hein, parce que pour vivre de sa peinture, là, on n'a pas le choix, il faut vendre des tableaux, il faut vendre des dessins. Et habitant dans la région de Lyon, donc j'y viens, ainsi qu'une centaine d'autres personnes, hein, tous les dimanches. C'est vraiment un lieu de une activité culturelle, moi je pense, de Lyon, qui est assez sympathique, avec des gens d'assez bonne qualité, hein, qui produisent un bon travail. Voilà, donc effectivement, je suis peintre, hein, et je suis peintre et chanteur, on va dire, hein, puisque de la peinture, effectivement, je tire ma subsistance. Voilà.
Je crois que vous avez une exposition à Paris, vous me disiez.
Bientôt, je vais faire, début mai, il y a une grande exposition, c'est un grand salon, ça s'appelle le GEMAC, hein, à Paris-Bastille, du 1er au 5 mai. Effectivement, avec 400 autres exposants, hein, je vais exposer mon travail. Et puis là encore, aller essayer de rencontrer les gens qui vivent dans la même sphère que moi, c'est-à-dire qui vont aimer mon travail sans que je change rien à ce que je suis. Voilà, comme on disait au départ.
Voilà, donc l'émission Killa Sound Massive va arriver dans quelques instants. Vous allez pouvoir écouter du reggae, du très bon reggae sur Radio Canu. On va se dire au revoir, Marc. On va se quitter en chanson avec une chanson qui s'appelle Avec toi sans partage. Mais peut-être avant tout, il y a du monde derrière. Peut-être rappeler où on vous trouve sur Internet. Je crois qu'il y a un MySpace, peut-être rapidement pour vous contacter.
Voilà, il y a un MySpace où vous pouvez écouter quelques enregistrements. Vous pouvez également aller directement sur mon site web, en fait, qui est agniet.com, donc
H-A-2-N-I-E-T.com. H-A-2-N-I-E-T, il faut répéter à la radio.
Voilà, très bien, merci. Et voilà, il n'y a pas d'onglet musical pour l'instant, mais c'est quelque chose qui viendra, puisque ça... Et puis après, on peut trouver, de toute façon, on tape chanson, Agnier, on va tomber sur des choses qui me concernent, voilà.
Voilà, Marc Agnier, merci beaucoup d'être venu, je vous dis à très bientôt, et on va se quitter avec la chanson qui s'appelle « Avec toi sans partage », et on ne va pas reprendre la parole, après il y aura donc l'émission Reggae.
Bon, merci Guillaume.
À très bientôt Marc.
Au revoir.
Un jour, je voudrais partir en voyage sans emporter d'autres bagages qu'une légère mais forte envie de vivre. Juste toi et moi et un temps partagé et nos vies une route et s'évader. Avoir du temps pour bavarder sans y penser. Mille et un jours à dépenser au jour le jour. Te dire à toi qu'à l'infini de mes pensées et de ma vie, je t'aimerai puisque tu as un peu d'elle et de moi en toi. Un peu d'elle et de moi en toi. Un jour je voudrais t'avoir sans partage, ne plus nous sentir les otages du départ du train qui le soir nous blesse. Juste toi et moi sur le quai bondé d'au revoir. Chez moi serait chez toi en vrai. L'un à l'autre on s'attacherait pas à pas pour se délivrer d'avoir tendu, se séparer. Te dire à toi qu'à l'infini de mes pensées et de ma vie, je t'aimerai puisque tu as un peu d'elle et de moi en toi. Un peu d'elle et de moi en toi. Un jour je voudrais te parler mon grand, de l'utile, de l'inutile, ces grandes questions qu'adolescents on porte. Juste toi et moi, à ton âge, moi j'étais fragile. Te dire les leçons de sagesse reçues du sein même des passions qui nous déroutent pour nos désirs par leur largesse sans concession. Te dire à toi qu'à l'infini de mes pensées et de ma vie, je t'aimerai puisque tu as un peu d'elle et de moi en toi. Un peu d'elle et de moi en toi. Un jour tu vivras et tu comprendras ce qui difficilement s'explique. Qu'à trop aimer quand on s'applique, on risque même toi et moi de mélanger le chaud au froid. Même si me vient le goût amer de nos désaccords aussitôt, bien sûr que j'ai aimé ta mère à l'âge que tu auras bientôt. Te dire à toi qu'à l'infini de mes pensées et de ma vie, je t'aimerai puisque tu as un peu d'elle et de toi en moi. Un peu d'elle et de toi en moi. Partir un jour, juste toi et moi. Partir un jour, juste toi et moi.